franceinter.fr.
Bonjour, chers écouteurs.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun.
L'enseignement de l'histoire.
Richelieu, c'était un empereur avec Louis XIV, je crois.
Qui a vécu le premier? C'est Louis XIV ou Napoléon?
Napoléon.
C'était en 1979, il y a plus de 30 ans, nous disait déjà que la France, dans la tourmente économique, devait passer sous la toise des normes internationales. Et dans cette situation d'incertitude, Alain Decaux se lançait dans une campagne qui a marqué. La France n'est pas n'importe quelle nation, qu'au moins on stabilise l'enseignement de son passé. Les termes du débat, qui devint vite politique, étaient fixés pour longtemps. On peut même dire que depuis, ils se sont encore dégradés. L'enseignement de l'histoire est maintenant menacé d'émiettement, chacune des communautés qui se constituent dans le pays réclamant sa part de mémoire, et d'érosion. Les horaires garantis dans le secondaire et surtout dans le primaire devenant de plus en plus branlants. Ainsi, dorénavant, l'histoire-géographie fait-elle l'objet d'un examen écrit à la fin de la première, comme le français, mais passe en option en terminale scientifique. La Société des professeurs d'histoire-géographie, habituée depuis sa création il y a 102 ans, à tirer tous les signaux d'alarme qu'elle trouve à portée de main, déploie cette fois toutes ses forces, cahier de doléances, préparation d'un manifeste et, le samedi 28 janvier, tenue d'états généraux à Louis-le-Grand et en Sorbonne à Paris. Alors l'émission que nous allons faire aujourd'hui ne sera ni partisane ni corporatiste, mais ne va pas manquer à l'engagement puisque l'invité en est Patrick Garcia. Parmi vos spécialités, l'étude de la conscience historique, mais alors quelque chose que vous êtes très peu nombreux à pratiquer, l'histoire de l'enseignement de l'histoire.
Oui, effectivement, pas très nombreux, mais on est déjà un certain nombre. C'est l'idée de travailler sur l'enseignement de l'histoire comme objet historique et donc son évolution depuis plusieurs siècles.
C'est pas si facile parce qu'on connaît l'amont, les programmes, on connaît moins l'aval, les pratiques.
Et c'est la grande difficulté, c'est un peu la boîte noire, c'est-à-dire qu'on connaît l'enseignement de l'histoire à travers les programmes, à travers les textes normatifs, à travers les manuels, quand il y en a, à partir du 19e siècle. Mais effectivement, ce qu'il se faisait effectivement dans les classes, et je dirais parfois ce qu'il se fait dans les classes, n'est pas toujours très bien connu.
Vous avez raison de parler du 19e, parce qu'on pourrait, comme vous le faites dans un livre que vous avez publié chez Armand Collin avec votre collègue Jean Leduc, l'enseignement de l'histoire et son histoire, on pourrait plonger plus profond, aller chercher les traces de la constitution de la discipline du côté de la France du XVIIe siècle. On pourrait parler de Napoléon qui disait « il faut restituer la continuité historique du pays, de la monarchie de Juillet », qui a fait beaucoup. Mais par convention, on doit commencer au XIXe avec la République.
Je suis le nouvel instituteur de Trégnat.
Instituteur? Dis-moi, Marguillet, c'est quoi un instituteur?
Un maître d'école.
Je vois pas très bien à quoi ça sert, l'école.
À quoi ça sert? Je vais vous le dire. À les sortir de la misère. À leur permettre de créer une société qui ne fera pas de l'enfant un esclave. Et une société qui n'en sera pas plus pauvre. Bien au contraire.
Hussard noir, c'est le titre du film, téléfilm d'Alain Boudet. Oui, parce qu'ici, on fait de l'histoire par curiosité, par amusement. Je parle de France Inter. Mais en classe, c'est une autre affaire. Il faut apprendre par l'histoire à s'intégrer à la nation.
En tout cas, ça a été l'une des finalités qui ont amené l'histoire à devenir une discipline importante en association avec les géographies, on y reviendra, dans l'enseignement primaire et dans l'enseignement secondaire. On peut dire que la relance ou le développement de l'enseignement de l'histoire est très lié à la question nationale. Il s'agit de produire du français. Ernest Laviste, qui était un historien donc, de la fin du 19e siècle et qui organise à la fois le cursus universitaire et le cursus scolaire, donnait comme fonction à l'enseignement de l'histoire de faire comprendre aux Français ce qu'est la France.
On a une idée de la manière dont se passait une leçon. On est là sous la Troisième République, avant 14.
Alors oui, on a quelques idées. On a le discours critique des réformateurs qui, dès les années 1880,
critique le fait que l'enseignement de l'histoire fasse trop appel à la mémorisation, soit un lieu d'accumulation factuelle. Et l'adage de Lavis, c'est « enseigner, c'est choisir ». Et c'est ce qu'il appelle, il y a un certain nombre de textes très drôles où il raconte justement l'enseignement qu'il a subi lui-même sous le Second Empire, et il donne ce procédé mnémotechnique d'un professeur qui faisait apprendre par cœur toutes les batailles de la guerre de 30 ans, et pour que les élèves s'en souviennent, il leur faisait marquer quand c'était une victoire française, haut le drapeau, quand c'était une défaite française, bas le drapeau.
La leçon, c'est en trois temps. Il y a une interrogation sur le travail fait à la maison, sur l'apprentissage de la leçon précédente. Et puis après, il y a une nouvelle leçon qui se déploie.
Oui, il y a une nouvelle leçon. C'est-à-dire que pour la vie, c'est là que ça se constitue, c'est autour des instructions de 1890. Il y a l'idée qu'une leçon d'histoire doit être rationnelle. L'idée qu'on est dans un pays cartésien, ça doit être donc une démonstration. Donc il faut poser les termes du débat, suivre le fil et arriver à une conclusion en une séquence.
Mais Lavis, c'est quand même quelqu'un qui fait appel à l'initiative et au questionnement des élèves. Il ne faut pas l'imaginer comme quelqu'un qui recommande la répétition. Il dit qu'une histoire nécessite le récit et l'imprévu. Un exemple, il est Faubourg Saint-Antoine dans une école, un instituteur raconte la féodalité et puis n'arrive pas à passionner les élèves.
Oui, et Lavis, qui assiste au cours, lui dit d'aller s'asseoir, et c'est le directeur de l'école qui prend le relais. Le directeur de l'école leur dit « Bon, est-ce que vous savez ce que c'est la féodalité ?» Et les élèves répondent « Bah non. Est-ce que vous avez déjà vu un château ?» Et tous les élèves, c'est des petits gamins du Faubourg Saint-Antoine, « oui, monsieur », parce qu'ils sont tous allés à Vincennes. Et donc, à partir de la description du château de Vincennes, il fait comprendre une société en guerre, et il essaie de faire comprendre ce que pouvait être le monde féodal. Et Lavis se dit « bon, ben voilà, c'est ce type de leçon qu'il faut produire ».
Appel aux ressources de la géographie. L'histoire est associée à la géographie. C'est pas une évidence dans d'autres pays, ça n'existe pas.
C'est plus fréquent qu'on le dit généralement. C'est par exemple le cas aussi au Japon. Hein. Mais effectivement, là, on est dans quelque chose qui se constitue en France sur l'idée que d'un côté, on va enseigner le récit de la nation et de l'autre côté, on va faire la description du corps de la nation pour qu'on ait une France qui soit un être charnel auquel on puisse adhérer. Alors, juste sur ces questions de pédagogie, il faut avoir quand même l'idée que c'est un peu différent dans le primaire et dans le secondaire. Hein. Pourquoi dans le primaire, c'est très important de modifier les cours ? Parce qu'il faut que ça marche. Hein. Et Lavis dit, on n'enseigne pas l'histoire avec le calme qui sied à l'enseignement de la règle du participe passé. Il s'agit ici de la chair de notre chair, du sang de notre sang.
Mais la chair et le sang, c'est local aussi, ça se découvre, ça s'incarne dans la proximité, appel à la géographie, appel à l'histoire locale. À Rouen, je parlerai de la Normandie, à Toulouse, du Languedoc, et partout, je parlerai de l'Alsace et de Strasbourg, et à Boulogne-Billancourt.
Je vous avais demandé de rechercher les lieux d'origine de vos grands-parents. Évidemment, ça peut vous paraître un peu étonnant, mais vous verrez que les conséquences en sont très importantes, tant au point de vue géographique qu'au point de vue historique, cours d'histoire de l'année prochaine, et c'est pourquoi on va procéder à un petit sondage. Geneviève, qu'avez-vous trouvé ?
Deux grands-parents sont nés en Bretagne et deux autres en Lorraine.
Bon, et vous, Andrea ?
Ma mère est originaire de Bretagne et mon père italien.
Oui, et vous ?
Deux dans Bretagne et deux dans Béarn.
Vous voyez ce fait qui se vérifie en classe, eh bien, il est vrai pour l'ensemble de la population boulonnaise. Et parmi vous, eh bien, nombreux sont celles dont les cousins, en Bretagne ou dans le Massif central, continuent à quitter le village à la recherche de travail dans les villes.
Ce déplacement de population modifie d'ailleurs le visage de notre cité. Alors qu'il y a 5 ans encore, l'école de la rue de Sèvres recevait surtout comme élèves des enfants d'ouvriers, nous accueillons maintenant, en plus, des enfants d'employés, des enfants de fonctionnaires, des enfants d'ingénieurs.
Film de Jacques Crière, enfin dans les Hauts-de-Seine, les autres Hauts-de-Seine que Boulogne et Neuilly, il y a aussi maintenant des fils d'immigrés d'un peu toutes les régions du monde, ce qui rend d'ailleurs les conditions de l'enseignement de l'histoire différentes. D'ailleurs, l'histoire va cesser ou devenir moins nationaliste dès l'entre-deux-guerres, dès le lendemain de la Grande Guerre.
Oui, il y a dès le lendemain de la Grande Guerre une espèce de recul. On voit des instituteurs refuser d'enseigner l'histoire ou d'enseigner une histoire patriotique au nom de leur pacifisme. Mais là aussi, je voudrais revenir sur la différence entre le primaire et le secondaire. Par exemple, dans l'entre-deux-guerres, Jules Isaac, donc grand auteur de manuels, hein, le Malais Isaac, qui a duré bien 40 ans, quand il traite les causes de la Première Guerre mondiale, mais côte à côte, un jugement d'historien français, et une analyse d'historien français et une analyse d'historien allemand. Donc, il ne faut pas réduire de la même façon, on dit souvent, l'école primaire, hein, c'était l'enseignement de nos ancêtres les Gaulois, l'enseignement national. Or, il y a une part qui est faite au local d'emblée. Hein.
Mais il y a une différence essentielle, vous savez, entre le primaire et le secondaire, c'est que dans le primaire, il n'y a pas d'association des professeurs d'histoire géo. Dans les années de l'entre-deux-guerres, et plus encore, dans les années où commence à progresser l'influence de l'école des annales, Marc Bloch, puis Fernand Braudel, pour ne citer que de grands noms, les professeurs du secondaire, ils sont pris quand même du besoin de mettre à niveau, de mettre ensemble ce qu'ils ont appris dans la recherche ou à l'université et ce qu'ils transmettent.
Alors, je daterai quand même, ce serait pour moi un peu plus tardif. Bon, disons qu'on a une modification dans l'historiographie universitaire, avec des propositions de ces universitaires pour modifier l'enseignement. Mais en fait, les premiers effets de cela vont faire plutôt sentir dans les années 60. Si vous voulez, il y a une espèce de tranquillité de l'histoire en France et donc de l'enseignement de l'histoire qui va des années 1890, hein, le triomphe des historiens méthodiques, jusqu'aux années 60. On enseigne au lycée la même histoire que l'on fait en Sorbonne, sauf celle des novateurs, mais qui encore ne s'enseigne pas vraiment.
Mais les novateurs vont quand même prendre un peu le pouvoir à la fin des années 50, au début des années 60, et à leur tête, le pape de la longue durée, l'empereur Braudel, qui va fabriquer, à partir de 59, de nouveaux manuels. Alors qu'est-ce que c'est l'idée de la transformation qu'il veut imposer ?
Alors, l'idée, c'est justement la mise à niveau de l'historiographie et de l'enseignement, qui était un principe, disons, ancien, traditionnel. Et pour lui, c'est comment on va instiller ou distiller l'histoire universitaire qui s'est renouvelée dans l'enseignement. Et ça passe par un programme qui l'inspire, il ne le rédige pas lui-même, il arrive à rédiger un manuel traitant de ce programme, qui est le programme de 1962, intitulé « La grammaire des civilisations », on a gardé ce titre, mais qui est un programme qui découpe l'année en deux séquences. Une première séquence consacrée aux civilisations qui sont abordées un peu à l'aune du structuralisme. Donc une civilisation, c'est une langue. Une civilisation, c'est une culture. Une civilisation, c'est un espace. Hein. Et une deuxième partie qui est consacrée à l'événementiel, ce qui est un peu pour Braudel l'écume de l'histoire.
Cycle long, grands espaces, tectonique des civilisations. Alors, les professeurs sont souvent enthousiastes. Je parle des jeunes professeurs qui n'ont pas nécessairement le pouvoir. À l'association des professeurs d'histoire-géographie, Alain Corbin raconte que, par exemple, à la fin des années 60, appliquant ce programme à Limoges, il a dit « c'est la fin de l'histoire-bataille » et le gouverneur, commandant la place, a émis des protestations. Si avec le gouverneur et maître des protestations. Dès cette époque, la réforme va susciter un malaise que Fernand Braudel, d'ailleurs, devine lui-même.
Il semblerait facile, à première vue, que tout homme soit un citoyen du monde. Comment se fait-il qu'à l'inverse, les civilisations restent si imperméables, si inexorablement elles-mêmes, source de la merveilleuse diversité, mais aussi de tant de querelles humaines ? C'est qu'elles font toutes sortes d'emprunts, sans doute, mais dans la masse des biens culturels qui s'offrent à leurs frontières, elles font leur choix et refusent parfois catégoriquement. Elles ont leurs douanes et refoulent les marchandises prohibées. On dirait même volontiers qu'une civilisation n'a sa pleine dignité et sa vigueur que lorsqu'elle est capable de dire non aux autres avec violence, au risque même de se perdre.
Eh oui, ça ne va pas marcher, notre avenir. C'est l'histoire, et l'histoire, c'est peut-être d'abord l'histoire de la France. Il faut dire qu'à la fin des années 70, là, c'est la crise économique. Les professeurs d'histoire-géographie n'aiment pas beaucoup Valéry Giscard d'Estaing. Ils ne savent pas très bien dans quel enracinement il faudrait le situer. Et Raymond Barre qui dit qu'il faut que la France fasse comme les autres nations. Et les ministres de l'Éducation nationale.
Oui, et puis Giscard aussi a supprimé le 8 mai, la commémoration du 8 mai 1945. Et ça a été ressenti. Vous voulez, Giscard a cette phrase en 1977, lors des vœux, hein, il ne faut pas se laisser entravée par les rhumatismes de l'histoire. Donc l'histoire est conçue là, non plus comme une ressource, mais comme un fardeau. Évidemment, cela va susciter une réaction très, très importante.
Son premier ministre de l'Éducation nationale, René Haby, il est considéré comme un traître. C'est un géographe qui aurait tourné kazakh. Et puis le dernier, Christian Bellac, bah, c'est l'équivalent de Luc Châtel. C'est un homme qui vient de l'entreprise.
Oui, et puis qui est là, pour le coup, admonesté publiquement à l'Assemblée nationale hein, par Michel
Debré. Les partisans, dont Michel Debré, du revival. On peut employer le mot, bien qu'il ne soit pas français, de l'histoire nationale avec des dates sûres et des héros incontestables.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Vive Henri IV, vive ce roi vaillant, vive Henri IV, vive ce roi vaillant. Ce diable à quatre a le triple talent de voir et se battre et d'être vert galant. J'aimons les filles et j'aimons le bon vin. J'aimons les filles et j'aimons le bon vin. De l'aumônerie, voilà le gai refrain. J'aimons les filles et j'aimons le bon vin. Vive la France, vive le roi Henri, vive la France, vive le roi Henri, car un son danse en disant comme Paris, vive la France, vive le roi Henri.
C'est une des chansons préférées de la Restauration. Je parle de celle de 1815. Mais maintenant, on en vient à une époque de Restauration dans le cadre des idées républicaines, de l'enseignement de l'histoire. Octobre-novembre 1979, lancement d'une grande polémique dont le héros, apparent en tout cas, sera Alain Decaux. Vous pouvez nous dire, Patrick Garcia, vous qui avez publié Charmant Colin avec Jean Leduc, l'enseignement de l'histoire et son histoire. Comment se sont organisées les choses ?
Écoutez, il y a des nouveaux programmes. Ces nouveaux programmes essaient, après les programmes Rodel, de mettre à niveau l'historiographie qui se fait et l'enseignement, et introduisent des thèmes, des thématiques hein, du type les transports, l'agriculture, à travers les âges, dans les programmes de collège. Les collègues sont extrêmement déroutés par ces programmes qui, d'une certaine manière, effacent le temps, rendent dans le temps immobile. Et donc, il y a une réaction. Et Alain Decaux est contacté par l'Association des professeurs d'histoire-géographie pour se faire le héros de cette réaction. Et le Figaro Magazine lui ouvre ses colonnes.
Alors, les propos d'Alain Decaux sont mesurés. Les articles d'accompagnement ressemblent parfois à des brûlots qui sont ensuite rallumés par la télévision Jean-Claude Bourret, fin 79.
Les enfants ne connaissent plus l'histoire de France. C'est le cri d'alarme lancé par plusieurs historiens, mais aussi par des professeurs et des hommes politiques, du RPR et du PS. Raison de cette inquiétude, les nouvelles méthodes qui dispensent les enfants d'apprendre les dates et les événements. Résultat, une extrême confusion dans les esprits des élèves, des résultats affligeants.
Richelieu, c'était un empereur avec Louis XIV, je crois.
Qui a vécu le premier ? C'est Louis XIV ou Napoléon ?
Napoléon.
Nos enfants ne font plus d'histoire. Il faut qu'on le sache et qu'on le répète. L'histoire est une matière d'éveil confiée à la discrétion des maîtres. Certains en font, certains n'en font pas. En tout cas, il est recommandé par les programmes de ne pas suivre le cadre, de faire de l'histoire au hasard. Un jour, on traite un sujet du 19e siècle, un jour, on remonte aux Mérovingiens. Comment voulez-vous que les enfants aient un sens de la chronologie? On ne peut pas comprendre l'histoire si on ne sait pas la chronologie, si on ne sait pas tout simplement que le XVIIe siècle succède au XVIe.
Un enfant n'aura à aucun moment un échelonnement de ce qui s'est passé dans son pays. Pas seulement dans son pays, dans l'Europe, mais enfin, disons que moi, si vous voulez, je suis un peu d'accord avec M. Pierre Goubert. M. Goubert disait récemment dans un article, il faut tout de même qu'on sache un peu mieux l'histoire du pays où le hasard vous a fait naître.
Alors Decaux reçoit le soutien de Pierre Goubert, c'est l'occasion d'évoquer la mémoire de Pierre Goubert qui vient de disparaître, qui était un homme extrêmement libre et qui, venu de la Sorbonne, venu de l'école des Annales, c'est l'auteur de Louis XIV et 20 millions de Français, il n'y a pas que Louis XIV qui compte, il y a aussi les autres Français, a dénoncé l'obscurantisme des nouveaux programmes. Alors les grands mots sont vite prononcés d'ailleurs et le débat devient politique.
Oui, le débat, bon, c'est l'occasion. On est en 1979. Il y a une double contestation de Valéry Giscard d'Estaing, à la fois de la part des gaullistes, hein, Jacques Chirac n'est plus Premier ministre, et de la part du Parti socialiste, du Parti communiste. Hein, je dirais que d'une certaine manière, il y a ce débat qui pourrait, d'une certaine manière, être technique, historiographique, prend une autre dimension. Hein. Il s'agit de trouver les moyens de crier à Raoult sur le baudet giscardien. Hein.
Oui, mais ce n'est pas un débat gauche-droite non plus, parce que Louis Mexando, professeur d'histoire et soutien de François Mitterrand, il est sur les mêmes positions.
Absolument, on a une alliance de tous les courants politiques contre le courant giscardien, qui est supposé, à travers ses programmes, nourrir une espèce de volonté de table rase de l'identité nationale pour faciliter l'intégration européenne, ce qui a été induit un peu par la façon dont Valéry Giscard d'Estaing a supprimé la commémoration du 8 mai 45 en envoyant une lettre aux dirigeants européens au lieu de s'adresser aux Français.
C'est un petit peu le même débat aujourd'hui. Au fond, on n'a pas tellement bougé, tout a été fixé à cette époque-là.
C'est-à-dire on a un double débat. Hein. On a le débat de comment on fait avancer, comment on modifie les programmes en fonction des avancées de l'historiographie ou des changements de l'historiographie. Donc comment on intègre de nouvelles problématiques. Donc ça, c'est un premier débat. Le deuxième débat, on est toujours en train de travailler sur ce qu'est la fonction nationale, la fonction civique, les finalités civiques de l'enseignement de l'histoire. Et on aurait même un troisième niveau de débat qui est cette image de la discipline comme une discipline d'enseignement de la chronologie. Chacun a une image, et les hommes politiques particulièrement, de ce que doit être l'enseignement de l'histoire. Et donc, à partir de là, on a un débat assez compliqué qui souvent échappe, puisqu'on ne sait pas quels sont les termes exacts sur lesquels on est en train de débattre.
Alors, on va essayer, nous, de modifier les termes de l'échange. Alors, une grande question, c'est continuité, discontinuité. C'est vrai que quand on maintient une continuité, ça évite le fatalisme. On peut dire que le récit est fait d'imprévision, que les acteurs y ont un rôle.
Alors, je ne sais pas si récit et continuité, hein, c'est identique. Ce qui est certain, c'est que l'histoire telle qu'elle est conçue par Lavis était un roman continuiste, hein, d'une origine vers un débouché, qui est une de ses grandes phrases, c'est nos ancêtres, c'est nous dans le passé, nos enfants, c'est nous dans le futur. Il y a une continuité française, c'est cette continuité qu'on a enseignée. Effectivement, on a rompu avec cette histoire qui, d'une certaine manière, justifiait le présent par le passé. Puisque le présent était l'aboutissement du passé, en introduisant de la discontinuité.
Deuxième grand débat, selon vous, la place du contemporain, du très contemporain.
Alors, c'est une question qu'on se... À partir des années 80, on réintroduit un enseignement qui va jusqu'à nos jours. C'était une tradition lavicienne, là encore, donc fondatrice, voire même ça précédait Lavis, qui avait été interrompue par la Seconde Guerre mondiale. La difficulté, disons, à enseigner la Seconde Guerre mondiale. Donc on y revient. Et la question, c'est quelle part on laisse à cet enseignement. À partir du moment où on l'a introduit, c'est vrai que l'enseignement du très contemporain, du temps présent, a pris une part très importante en terminale, en troisième. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, c'est ce que se posent en tout cas les rédacteurs de programme, d'enfermer les élèves dans une vision pelliculaire du passé? Comment réintroduire de la durée?
Alors il y a une phrase qu'on entend souvent et qui est dictée par le bon sens. Quand on connaît pas le passé, c'est pas la peine d'essayer de comprendre le présent. Marc Bloch répondait à cela, expression beaucoup moins connue, quand on n'aime pas le présent, c'est inutile d'essayer de comprendre le passé.
C'est une position qu'on ne peut que partager. Hein. Je veux dire, faire de l'histoire, c'est un amour du présent, puisque c'est quand même le présent qui nous pose les questions que l'on pose au passé, ou qu'il soit un passé lointain ou qu'il soit un passé proche. L'histoire, c'est un rapport entre le passé et le présent. L'histoire, ce n'est pas simplement le déroulement de faits passés qui seraient révolus. On travaille sur les échos, c'est notre sensibilité qui est engagée.
C'est-à-dire que si vous n'aimez pas vos contemporains, si vous les considérez à ce point autre qu'ils deviennent pour vous inaccessibles, ce n'est pas la peine d'essayer de faire de l'histoire, puisque l'histoire, ça consiste à chercher les autres.
Ah ben tout à fait. Pour trouver l'altérité, il faut pouvoir comprendre. Et pour pouvoir comprendre, il faut rentrer en dialogue. Hein, et donc, il faut avoir cette préoccupation qui est inspirée par le présent.
Alors, vous parlez d'altérité, troisième grand débat. Comment intégrer le récit national, je n'emploie pas le mot roman national, à des ensembles plus vastes, et comment parler des autres mondes?
Écoutez, là, c'est aussi toute une difficulté. On a eu une façon d'en parler pendant longtemps. La façon, c'était de considérer que la France était branchée directement sur l'universel. Donc, à partir du moment où on enseignait l'histoire de France, on enseignait une histoire universelle. Donc, il n'y avait pas de problème. Et en plus, la façon d'enseigner l'histoire répondait à ça. Notre histoire de France, elle démarrait dans le croissant fertile. Hein, et on était au débouché d'un processus de civilisation qui passait par la Mésopotamie, l'Égypte, la Grèce et Rome. Bon. Donc ça, c'était une façon facile, une façon de pouvoir, l'universalité postulée. On en est sorti. La France n'a plus ce type de rapport au monde. La France n'est plus un empire. Et dès lors, la question, c'est comment on va enseigner le monde. Enseigner le monde, sachant qu'en plus, dans nos classes, il y a des enfants qui viennent de ces différentes parties du monde. Et je dirais que ça, c'est un problème qui est ouvert. Alors, les programmes de collège actuels ont introduit des mondes lointains dans l'enseignement. Ça avait déjà été fait dans les années 77, mais c'est vrai que là, on est dans une architecture qui est encore à travailler.
Enfin, de là à introduire les empires d'Afrique, comme il en a été question, le Ghana, le Mali et ce qu'on appelle le Monomotapa. Alors non, Napoléon, c'est notre histoire, pas le Monomotapa, c'est un royaume pas nécessairement bien désigné du côté des fleuves du Congo, et c'est le titre d'une pétition. L'association des professeurs d'histoire-géographie organise des états généraux à Louis le Grand samedi matin, à la Sorbonne samedi après-midi, sur un thème très précis. En terminale scientifique, l'histoire devient optionnelle. Elle est matière à écrire à la fin de la première, mais les programmes de première sont aussi transformés. Au journal de France Inter, ce 27 janvier, Emmanuel Davier.
Fini la chronologie dans les cours d'histoire de première, cette matière est désormais enseignée par thème, une approche de l'histoire déconcertante pour les élèves. Hubert Tison, secrétaire général de l'Association des professeurs d'histoire et de géographie.
C'est quand même très grave de ne pas suivre l'ordre chronologique pour des questions complexes. Par exemple, je vais étudier la Shoah. Si je suis le programme à la lettre, eh bien, je ne peux pas traiter tout de suite du nazisme, de la montée de l'antisémitisme, des mesures racistes qui sont prises à partir de 1933 sous Hitler. Parce que je vais dire aux élèves, ça je le verrai après. Et je le verrai dans les totalitarismes, si je suis à la lettre le programme. Et si je ne le suis pas, je risque aussi de ne pas respecter le contenu des thèmes.
Certains profs n'hésitent plus à dire qu'ils ont carrément honte d'enseigner de cette façon.
On a eu des lettres, je suis honteux d'avoir un programme comme ça, en première. C'est pas ce qu'on attend d'une république.
Première revendication demain lors des états généraux de l'histoire-géographie, le rétablissement de cette matière en terminale de manière obligatoire.
Mais très vite, Patrick Garcia, il y en a une autre revendication à l'horizon. Il ne s'agit pas seulement des examens des élèves, il s'agit aussi des concours de recrutement des professeurs, lesquels, très anciens pour certains, constituaient l'homogénéité du métier de la discipline.
Alors, on n'a jamais eu autant de professeurs qui ont passé les concours. Mais c'est vrai qu'effectivement, aujourd'hui, il y a une vraie question qui est posée depuis une réforme qu'on a appelée la masterisation, qui fait qu'il y a eu un allongement des études, il y a un manque de visibilité de ces études, et il y a une diminution très forte du nombre de candidats aux fonctions de professeurs d'histoire et géographie.
Alors, et puis l'idée d'une partie des hommes politiques, c'est aussi de ne plus recruter par concours.
Voilà, alors ça c'est le deuxième aspect, mais ça demanderait presque une émission en soi, qui est un recrutement qui serait de gré à gré par les chefs d'établissement. On n'en est pas là, mais on sent bien que ça fait partie des projets aujourd'hui, ou en tout cas des éléments qui sont réfléchis dans les ministères.
Merci à vous Patrick Garcia, l'enseignement de l'histoire et son histoire aux éditions Armand Collin avec Jean Leduc et puis les états généraux de l'histoire géographie. Demain, l'émission était réalisée par Jacques Sigal avec Cédric Lalanne et Roland Mahé et préparée par Franck Olivard, Frédéric Martin, Camille Poux, Jalaguier. On parle du protectionnisme lundi avec David Todd, j'ai bien dit David.